Un débat franc, respectueux et utile. Voilà comment Édouard Philippe parle ce soir de sa rencontre avec deux représentants des Gilets jaunes en début d'après-midi à Matignon. Rendez-vous qui a pourtant été largement boycotté dans un contexte de tension, visiblement, à l'intérieur du mouvement, sur les questions de représentativité et sur la méthode à suivre. Reportage d'Alexandra Duboucheron. Le sommet du G20, officiellement ouvert en Argentine, on retrouvera dans ce journal l'envoyé spécial de France Culture à Buenos Aires, Marie Viennot. Elle a suivi pour nous l'ouverture officielle de ce G20. Quand le passé ressurgit trois quarts de siècle après le massacre de 86 civils à Ascq dans le Nord, aujourd'hui Villeneuve d'Ascq, le témoignage d'un ancien des jeunesses hitlériennes à la télévision allemande qui dit n'éprouver aucun regret quant à sa présence sur les lieux de la tuerie le 1er avril 1944 provoque l'indignation dans la commune. Explication de Bertrand Galichet. Et puis l'enquête de cette édition, la suite des révélations dans le cadre des Implant Files, ce scandale du laxisme en matière de sécurité sanitaire concernant les dispositifs d'implants médicaux. Ce sera avec Jacques Monin. Une scène surréaliste dans la cour d'honneur de Matignon en début d'après-midi, invitée par Édouard Philippe à venir négocier sur leurs revendications. Seulement, deux gilets jaunes ont honoré le rendez-vous. L'un d'eux avec une bonne demi-heure de retard, l'autre entrant par une porte dérobée à l'abri des regards. Finalement, un seul de ces représentants autoproclamés du mouvement est resté pour échanger avec le Premier ministre et avec François Drugy, qui était également présent, pendant environ une heure. Bonsoir Alexandra Duboucheron.
Bonsoir Benoît, bonsoir
à tous. Vous étiez tout à l'heure à Matignon et vous avez constaté une nouvelle fois à quel point le mouvement est difficile à appréhender pour le pouvoir, tant il est hétérogène et insaisissable.
Oui, et pour preuve, jusqu'à la dernière minute, la présence des gilets jaunes était incertaine. Et puis on en a vu un arriver au pas de course, repartir au bout d'une vingtaine de minutes, sans gilet jaune sur le dos. C'était Jason Herbert, un Charentais de 26 ans, l'un des 8 ex-porte-parole du mouvement. Il nous a expliqué la raison pour laquelle il n'était que deux à venir aujourd'hui. C'est par crainte pour leur sécurité.
Aujourd'hui, nous ne sommes que deux, car nous avons tous reçu d'énormes pressions. Menaces d'agression, que ce soit verbale ou que ce soit physique, hein, notre vie a vraiment été, enfin, et toujours d'ailleurs, est en jeu. Les pressions ont été, en tout cas pour ma part, je ne m'exprime pas au nom de tout le monde, à 99% de la part d'autres gilets jaunes. Mais pas des personnes pacifistes, ce sont des personnes radicales qui ne souhaitent pas qu'on avance. Je ne leur en veux absolument pas, pour une raison qui est très simple. Ces personnes-là sont dans un désarroi terrible, une misère terrible. Ces personnes-là ont tout perdu, ce sont les gouvernements successifs qui leur ont tout pris.
Et si lui n'est pas resté à Matignon pour discuter, c'est parce qu'il voulait que l'entretien soit filmé et diffusé en direct, ce qui lui a été refusé. L'autre gilet jaune, lui, eh bien, on ne l'a pas vu. On ignore son identité, on sait juste que c'est un homme et qu'il a discuté plus d'une heure avec Édouard Philippe et François Drugy. Un dialogue intéressant, franc et respectueux, vous l'avez dit, a résumé le Premier ministre tout à l'heure. Premier ministre qui reconnaît qu'il espérait plus de monde, mais que sa porte restait ouverte à d'éventuels futurs représentants. Dissension interne, cacophonie, menace. En moins de deux heures, ce qui aurait pu s'apparenter à un boycott, à une humiliation de l'exécutif. Édouard Philippe semble l'avoir tourné à son avantage.
Merci Alexandra Duboucheron. Quelques heures plus tôt dans la matinée, ce sont les syndicats qui étaient reçus par Édouard Philippe, avec là des revendications clairement formulées. Augmentation du SMIC pour la CGT, prime transport étendue pour les salariés, revendications portées par la CFDT, ou encore moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants pour Force ouvrière. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Alors la question qui se pose ce soir, une nouvelle fois, c'est celle de l'éventuelle convergence des luttes, chère à nombre de gilets jaunes et autres opposants au gouvernement. On va y revenir. Mais quoi qu'il en soit, on voit déjà poindre un semblant d'union au Parlement. Union contre le gouvernement. Alors c'est pour l'instant uniquement à gauche. Sur un projet de motion de censure, ce sont les groupes communistes et France Insoumise qui portent pour l'instant ce projet visant à importer à l'intérieur de l'hémicycle la fronde des gilets jaunes.
Oui, c'est une manière de faire entrer cette contestation qui se revendique apolitique dans l'arène parlementaire. Une forme de récupération, plutôt de relais politique, pour tenter de déstabiliser le gouvernement sur un nouveau terrain, un nouveau front républicain, celui-là, après celui de la rue et de l'opinion publique. L'entêtement du gouvernement, qui veut garder le cap à tout prix, menace la paix civile et fragilise l'activité économique de nos territoires, peut-on lire dans le communiqué du groupe communiste, qui déclare soutenir la colère légitime des gilets jaunes, selon ses mots, colère légitime face à l'attitude méprisante du gouvernement, toujours selon ce communiqué. Le groupe communiste a proposé l'idée, Jean-Luc Mélenchon a répondu oui sur Twitter. sénateurs. Députés du PCF et de la France Insoumise sont donc alliés pour la circonstance en espérant activer cette arme démocratique. Mais avant un éventuel vote symbolique, puisque la majorité hégémonique de l'AREM met l'exécutif à l'abri, il faut déjà réunir les 58 signatures indispensables à l'examen du texte et pour cela obtenir le soutien indispensable des socialistes. Ils sont 29 dans l'hémicycle. La présidente du groupe PS, Valérie Rabault, consulte en ce moment même les membres de son groupe avant de donner sa réponse. Pour la France Insoumise, pas d'alliance cette fois avec la droite. Contrairement à cet été, au moment de l'affaire Benalla, on s'en souvient, le groupe avait voté la motion portée par le groupe LR. Mais les canaux de discussion de cet été ont été réactivés. Et cette fois, c'est bien la gauche parlementaire qui tente de s'unir pour cette contestation sociale de la politique du gouvernement et surfer ainsi sur la vague de colère jaune.
Merci Sophie Delpont. Et voilà qui va peut-être amener encore un peu d'eau au moulin des protestataires en lutte, notamment pour plus de justice sociale et fiscale. Il est tout à fait possible qu'à l'échelle européenne, le projet d'imposer enfin aux GAFA des taxes à la hauteur de leurs ressources ne soit pas suivi d'effet. C'est en tout cas ce qu'a récemment déclaré Pierre Moscovici, commissaire européen à la fiscalité. Et dans la perspective de la réunion des ministres des Finances de l'Union européenne mardi prochain, c'est un bien mauvais signal, estime Nathalie Loiseau, que vous avez interrogé tout à l'heure à midi et demi, Sophie. Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes.
C'est une nécessité, c'est une urgence. C'est une nécessité parce que on ne peut pas accepter que certains ne consentent pas à l'impôt en Europe alors qu'ils y gagnent de l'argent. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les géants de l'Internet. C'est une urgence parce que quand certains payent leurs impôts et d'autres non, il y a une concurrence déloyale et ça empêche des champions européens de l'Internet de se développer et ça porte préjudice à des secteurs traditionnels. Je pense par exemple au tourisme. Beaucoup d'États membres sont derrière cette proposition. Certains hésitent encore.
L'Allemagne
notamment.
Et vous
savez que le sujet fiscal est un sujet sur lequel les décisions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité dans l'Union européenne, ce qui, de ce point de vue-là, est regrettable. Ça n'est pas un hasard si nous poussons depuis un an et demi l'idée que sur certains projets, il faut pouvoir les faire à quelques-uns et que les autres nous rejoignent plus tard. Alors certains pays bloquent, soit parce qu'ils accueillent eux-mêmes des sièges de géants de l'Internet en Europe.
Comme l'Irlande, par exemple.
Et ça n'est plus le cas du Luxembourg qui s'est rallié à notre proposition. L'Allemagne est hésitante. C'est un peu difficile de savoir exactement ce qu'elle dira au Conseil européen de décembre, puisque à la fois il y a des membres de la coalition qui sont favorables à la taxe et d'autres qui sont plus réservés. Nous nous rappelons la nécessité, l'urgence, la justice fiscale. Et à un moment où on voit bien que certains se disent que c'est les petits qui payent et pas les gros, cette urgence, elle est encore plus prégnante.
Nathalie Loiseau, tout à l'heure dans le journal de midi et demi de Thomas Cluzel, elle répondait à Sophie Delpont. Demain, pour le troisième samedi de mobilisation des Gilets jaunes, l'acte 3 à l'avenue des Champs-Élysées à Paris se prépare ce soir avec la volonté de faire retomber un peu la tension. Les autorités ont ouvert les lieux aux piétons tout en annonçant un dispositif de sécurité conséquent et une fouille systématique des sacs. Alors, revenons sur la question de ce soir. Peut-on en arriver au fil du temps et de la durée de ce mouvement à ce que beaucoup espère, et est-ce que le gouvernement redoute, une convergence des luttes? La situation dans les lycées de France, par exemple, est suivie de près par le gouvernement. On y voit ici ou là des gilets jaunes. On y a vu aujourd'hui ici ou là des gilets jaunes. Et une trentaine d'établissements ont été bloqués aujourd'hui, dont trois à Châteauroux, dans l'Indre. Reportage au lycée Jean Giraudoux de Marie-Coralie Fournier.
Oui, des barrières bloquent les grilles principales du lycée Jean Giraudoux. Les jeunes brandissent des pancartes et gênent la circulation. Elsa est en seconde.
On avait dit de se retrouver vers 8h. Il y a eu des blocus et on a mis des cadenas et tout, on a empêché les portes de passer. On essaye de faire un maximum de bruit, de montrer notre message au maximum.
Un message confus quand on demande aux organisateurs, c'est contre la réforme du bac et le contrôle continu et contre Parcoursup. Ça et seulement ça, selon Anaëlle et Tess.
Oui, il n'y a vraiment que ça. On est là contre la réforme et la sélection.
On est là pour défendre nos droits, pour défendre tous les lycéens, quoi.
Pourtant, quelques lycéens portent un gilet jaune. Explication avec Anouk.
Les gilets jaunes, ils ont voulu faire du bruit. Et en fait, ça nous a permis de nous aussi faire du bruit. On n'est pas forcément tous d'accord avec les gilets jaunes et avec ce mouvement-là, mais franchement, on veut en fait se faire entendre.
Les jeunes de Jean Giraudoux rejoignent alors le lycée Pierre et Marie Curie et ses manifestants. Certains tapent sur des poubelles, d'autres montent sur les grilles, lancent des fusées de feux d'artifice. Et quand on demande à Mathilde pourquoi se mobiliser ce jour-là...
On ne sait pas vraiment qui a décidé ça, mais c'est qu'en fait, sur les réseaux sociaux, sur Internet, ils ont dit le 30 novembre, tout le monde se rassemble, alors on s'est tous rassemblés.
Les jeunes ont défilé dans le centre-ville. file devant la mairie et rejoint plusieurs lycées.
Marie-Coralie Fournier de France Bleu Berry. Ce soir, l'UNL, l'Union Nationale des Lycéens, tient à préciser sa position. La mobilisation d'aujourd'hui portait sur la réforme du lycée et Parcoursup, mais il n'y a pas d'appel officiel dans les lycées à se joindre aux gilets jaunes, précision de l'UNL. Côté étudiants, l'UNEF, de son côté, appelle aux côtés d'autres organisations à des rassemblements demain à Paris contre la hausse des frais universitaires pour les étudiants non communautaires. 18h10 sur France Culture. À l'étranger, l'ouverture officielle aujourd'hui du sommet du G20 en Argentine, avec beaucoup de questions en suspens sur l'avenir du multilatéralisme, sur les relations américano-russes, sur la question du climat et sur la portée de la voix française incarnée par Emmanuel Macron. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir Benoît.
Vous êtes notre envoyé spécial en Argentine. Vous avez pu assister tout à l'heure au lancement officiel du G20 qui s'annonce très compliqué pour les organisateurs et notamment pour la présidence argentine.
Oui, le mot d'ordre de ce G20, c'est « Nous construisons un consensus pour un développement équitable et durable ». Rien de très nouveau, sauf que ce qui pose problème maintenant, c'est le mot « consensus ». À l'ouverture, le président argentin Mauricio Macri a comparé ce 10e G20 au premier qui avait eu lieu à Washington en pleine crise financière. Le sentiment d'urgence doit être le même, a-t-il dit, on l'écoute. Jamais un G20 n'a été organisé si au sud. Je vous invite à formuler un message clair pour le monde. Ensemble, depuis ici, nous pouvons construire un chemin vers le développement. Nous en sommes tous responsables. Nous devons aussi évoquer les inégalités hommes-femmes et être unis dans la diversité. Alors, unis dans la diversité, c'est la devise de l'Union européenne et on sait qu'elle n'est pas toujours facile à tenir. La présidence argentine joue gros sur ce G20 car son organisation coûte cher alors que le pays est en crise économique. Elle est une gêne pour les habitants de Buenos Aires. Le centre-ville est interdit de circulation. Le jour a été déclaré férié. Ce G20 doit être une réussite pour Mauricio Macri. Il y a des élections en Argentine dans moins d'un an. Or, la réussite d'un G20 se jauge à l'aune du communiqué final qui sera publié demain. Il y a des sujets qui ne poseront pas de problème, mais en revanche, bien sûr, les sujets de commerce, de climat et d'immigration aussi risquent d'empêcher un communiqué final.
Alors traditionnellement, Marie, cette ouverture officielle est précédée de nombre de réunions et rencontres bilatérales. Ça a été le cas aussi aujourd'hui. Ces rencontres qui, période de Trumpisme oblige, risquent de prendre le dessus sur les rencontres multipartites jusqu'à demain.
Oui, les relations bilatérales, il y en a de toutes parts pendant ces G20. Si on s'en tient à l'agenda du président français, après le dirigeant saoudien, il a eu tout à l'heure un aparté avec le premier ministre japonais. C'est la première fois que les deux hommes se parlaient directement depuis l'affaire Nissan. Alors, selon ses conseillers, Emmanuel Macron devait se contenter de redire ce que Bruno Le Maire avait déjà dit à son homologue japonais. En gros, cette affaire personnelle a un impact sur le constructeur français. La France tient à la stabilité du groupe et à la transparence de l'enquête. Lors d'une interruption de séance tout à l'heure, Emmanuel Macron doit rencontrer aujourd'hui Vladimir Poutine, on n'en sait pas plus, et demain il verra le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président chinois Xi Jinping. Mais en fait, ce sont surtout les rencontres bilatérales du président américain, effectivement, qui risquent de peser négativement sur la bonne volonté que chacun se plaît à afficher en ce début de G20. Donald Trump doit voir Xi Jinping, le président chinois. Verra-t-il Vladimir Poutine? Cela change un peu à chaque instant. En fait, si on résume, c'est Donald Trump qui tient les clés de la réussite de ce G20. Va-t-il encore faire la démonstration de l'échec du multilatéralisme ou marquer une pause dans ses attaques? On a envie de dire à lui seul d'en décider.
Merci Marie Viennot. Donald Trump qui à l'instant s'exprime sur Twitter et qui dit voir des signes positifs concernant la relation commerciale américano-chinoise. On n'en sait pas plus pour l'instant. Merci Marie Viennot en direct d'Argentine pour France Culture avec Marc Garvenez pour les moyens techniques et la liaison depuis Buenos Aires. Un dégoût incommensurable, c'est par ces mots très forts que le maire de Villeneuve-d'Ascq dans le département du Nord a tenu à réagir à un reportage diffusé hier à la télévision allemande ARD. Il faut dire que ce reportage, qui commence à faire beaucoup de bruit outre-Rhin, met en scène un certain Karl Münter, ancien des jeunesses hitlériennes. Il s'exprime notamment sur le massacre de 86 habitants de la commune d'Ascq le 1er avril 1944. Bonsoir Bertrand Canichet.
Bonsoir Benoît.
Ce soir-là, Karl Münter était là, ce jour-là, le 1er avril 1944, il était là, et 74 ans plus tard, il n'en éprouve pas le moindre regret.
« Si j'arrête des hommes, alors j'en ai la responsabilité », explique l'ancien SS. Et s'ils s'enfuient, j'ai le droit de leur tirer dessus, tant pis pour eux, et d'ajouter, s'ils avaient l'esprit tranquille, pourquoi prenaient-ils la fuite? Autant de déclarations qui résument en effet l'état d'esprit de cet homme de 96 ans à propos du massacre d'Ascq, devenu un quartier de Villeneuve-d'Ascq dans la banlieue de Lille. Le 1er avril 1944, en pleine nuit, un train de la 12e Panzer Division SS Hitlerjugend destiné à renforcer les défenses allemandes de Normandie, déraille à la suite d'une explosion provoquée par la résistance. Aucun blessé et peu de dégâts, mais les Allemands organisent une rafle dans le village. Ils exécutent au total 86 personnes, font de nombreux blessés et pillent les maisons avant que le convoi ne reparte. Karl Münter, qui fait partie de cette division SS, ne sera jamais inquiété. Bien que condamné à mort par contumace en France en 1949, il continuera à vivre paisiblement près de Hanovre. Dans l'interview diffusée hier sur l'ARD, Karl Münter assure n'avoir jamais tiré sur personne lors de ce massacre. D'ailleurs, selon lui, les SS n'ont commis aucun crime pendant la guerre et il met en doute l'ampleur de la Shoah. L'ancienne Oberscharfführer, devenu un héros pour les néo-nazis allemands, est apparu ce mois-ci chez le vice-président du NPD, parti ultranationaliste, où il a raconté sa carrière à la Waffen-SS devant des centaines de personnes avant de dédicacer des photos.
Merci Bertrand Galichet. Gérard Caudron, maire de Villeneuve-d'Ascq, annonce ce soir dans son communiqué qu'il va écrire à Angela Merkel, à Jean-Claude Juncker et à Emmanuel Macron pour leur demander de dénoncer à leur tour et sans retard ni réserve les propos de Karl Münter. À 18h16, voici comme chaque vendredi dans le journal de France Culture, l'enquête de la cellule Investigation de Radio France. Elle est signée ce soir. Jacques Monin, bonsoir.
Bonsoir Benoît.
Avec la suite des révélations sur les Implant Files, toute cette semaine, grâce au travail que vous avez mené avec le Consortium international des journalistes d'investigation, vous avez démontré le dysfonctionnement du système des implants médicaux en France et en Europe. Et ce soir, pour aller plus loin, vous allez essayer de comprendre, de nous faire comprendre comment on en est arrivé là. Alors pourquoi, Jacques, y a-t-il autant de laxisme dans le système de certification et de régulation des implants ?
Alors pour plusieurs raisons. D'abord, les implants sont montés en puissance récemment, hein, il y a une trentaine d'années, et ils ont donc été perçus comme des objets technologiques et rangés plutôt dans la catégorie des marchandises que dans celle des médicaments, ce qui veut dire qu'ils sont validés par ce système de certificateurs européens privés qui n'ont pas les exigences d'une agence du médicament qui, elle, est indépendante. Ensuite, vous avez les industriels qui poussent pour limiter les évaluations cliniques parce que ils disent qu'un implant, ça évolue très vite et que donc si on perd du temps à l'évaluer, bah, il sera déjà obsolète une fois mis sur le marché. Et il se trouve que les autorités françaises comme européennes d'ailleurs, sont très réceptives à ce culte de l'innovation. C'est ce que nous explique le professeur Vico du Centre d'évaluation des dispositifs médicaux aux hôpitaux de Paris.
Il y a une espèce d'ambiance de technophilie autour de l'innovation qui n'existe absolument pas pour le médicament. Dans ce système-là, il n'y a personne qui introduit une notion de rationalité de base qui est de dire « c'est une merveille technologique ». Mais est-ce que ça fait mieux que le reste ?
Et cette fascination de la technologie qui prime donc parfois sur l'évaluation, bah elle s'exerce aussi sur les chirurgiens eux-mêmes. Et ça, c'est ce que m'a raconté Anne-Laure Bailly, qui est consultante en dispositifs médicaux.
Les chirurgiens hospitalo-universitaires, ils sont censés faire de la recherche. Ils ont une carrière qui dépend aussi de ce qu'ils font et ce qu'ils publient. Donc c'est vrai qu'ils ont envie de pouvoir parler de choses nouvelles. Quand on leur fournit des prothèses ou des implants stabilisés depuis 20 ans, on a du mal à les embarquer là-dedans. S'il y en a qui veulent faire des essais comparatifs, mais c'est vrai que le chirurgien de base est attiré par l'innovation. C'est vrai qu'ils ont tendance à demander aux technico-commerciaux « bon, c'est quoi votre nouveau truc ?»
Donc les médecins eux-mêmes, Jacques, participeraient de fait à l'entretien de ce système, des médecins qui sont parfois en plus en lien avec les industriels.
Ouais, en lien d'intérêt. Alors ça peut être utile hein, par ailleurs pour la recherche, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais cette consanguinité peut aussi poser la question de l'influence de ces industriels sur les politiques de santé. Je vous donne un exemple. Jean-Claude Gislin, c'est le numéro 2 de l'agence de sécurité du médicament. C'est le gendarme qui est censé contrôler les industriels. Eh bien en 2009, il a coécrit un livre sur les implants et avec qui ? Avec le directeur des affaires publiques de Medtronic, qui est le numéro 1 des implants dans le monde. Et apparemment, ça ne lui pose pas problème.
On n'a pas de conflit d'intérêts, on a fait un ouvrage descriptif, c'est un exercice d'auteur. Bon, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce type d'ouvrage. Maintenant, on est dans un schéma où on essaye de renforcer la réglementation. Donc, on est dans le rôle des régulateurs.
Voilà. Mais il y a des intérêts dans le sens où l'intérêt du fabricant, c'est de vendre. Votre intérêt à vous, de temps en temps, c'est de taper du poing sur la table. Et chacun devrait être dans son camp.
Oui, non, mais je comprends votre interrogation. Encore une fois, c'est un ouvrage d'auteur pédagogique sur un domaine qui nous tenait à cœur, où on avait chacun acquis une expérience et où on a voulu mettre à disposition.
Vous n'êtes pas dit, c'est pas forcément opportun de le faire de cette manière-là. Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un venait vous solliciter, vous diriez oui ou non?
Non, probablement que ça ne se ferait pas, mais encore une fois, il n'y aurait pas d'objet. Enfin, la question, je crois, ne se poserait pas.
La question ne se poserait plus, nous dit donc Jean-Claude Ghislain. Maintenant, Jacques, la réglementation européenne, elle va évoluer en mai 2020.
Oui, il y a une nouvelle réglementation qui va arriver. On a introduit dans les textes une exigence d'investigation clinique qui n'y était pas. On va créer aussi un collège d'experts européens. Seulement, le principe même des certificateurs privés, lui, il restera valide. Bref, on va faire un pas, mais un petit pas seulement.
Merci Jacques Monin. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur franceculture.fr. Le temps demain sera marqué par une nouvelle perturbation océanique selon les prévisions de Météo France. Journée plutôt pluvieuse donc, notamment sur l'ouest. Les températures seront en légère hausse jusqu'à 15 degrés dans le sud-ouest.